RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage en rediffusion avant une nouvelle saison. Et c'était il y a 50 ans en Chine, le 16 mai 1966. Mao lançait une directive contre les révisionnistes et libérait la fureur des lycéens et des étudiants chinois chauffés à blanc par les maximes du Petit Livre Rouge. Le début d'une guerre civile qui va faire des milliers de morts. Mais à l'époque, on n'en savait encore rien. Deux ans plus tard, le combat des gardes rouges contre l'ordre établi va nourrir les manifestations de mai 68, notamment en France, où la grande révolution culturelle prolétarienne a eu un large écho avec, d'un côté, une sorte de comité central entre guillemets, des intellectuels, pour la plupart des agrégés, des diplômés de l'école normale supérieure à Paris, et de l'autre, ces gardes rouges, des militants de base, prêts à donner le coup de poing à la sortie des usines. Témoignage d'ex-maoïstes français aujourd'hui, la révolution culturelle et les pro-chinois en France, un grand reportage de Stéphane Lagarde.
Alors, j'essaie de vivre ici avec un infini respect de la nature. Elle est respectable. Quand vous voyez ce séquoia qui fait 40 mètres de haut, ce cèdre, etc.
Vous êtes passé du Petit Livre Rouge au Grand Manuel Vert ?
Au Grand Livre Vert, au Grand Livre. C'est Jean-Jacques Rousseau qui parlait du Grand Livre de la nature. Ben finalement, de Rousseau à Mao, et je m'en porte pas plus mal.
De Mao à Rousseau, c'est ça qu'il voulait dire Jean-Paul Ribes et non l'inverse. Les souvenirs de l'ex-maoïste reviennent comme les fleurs au printemps. Sous les pavés Le Jardin, ancien journaliste au magazine Actuel et à l'Express, Jean-Paul Ribes nous accueille chez lui, dans sa vieille demeure du XVIe siècle, près de Paris, entouré par les sculptures en bois d'un ami chinois.
Alors là, vous voyez, c'est des statues, il y en a partout, 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 de mon ami Keping. Alors là, on va laisser le chien un petit peu de côté parce que...
Ça s'appelle comment ?
Ina, c'est la déesse de l'amour en Mésopotamie. Et si vous la voyez, d'ailleurs, elle pèse 45 kilos, elle est énorme, et elle est terriblement affectueuse, mais un peu trop. Voilà.
Comme beaucoup de Français nés en 1950, pour Jean-Paul Ribes, le début de l'engagement, c'est l'Algérie. Porteur de valises, professeur d'économie, et une rencontre avec le Premier ministre chinois à Alger.
Mon premier engagement a été dans la lutte contre le colonialisme. Il y a un mec qui est venu à Alger, qui était le premier ministre chinois, Zhou Enlai, que j'ai rencontré, juste choqué un verre et serré la main à l'ambassade de Chine. Et Zhou Enlai était un personnage extraordinairement séduisant, qui nous disait que la Chine, c'était vraiment l'Orient est rouge, la lumière pour les peuples, nous sommes le grand arrière de tous les peuples. Langage extrêmement séduisant, totalement faux. Donc, je suis resté jusqu'en 65 en Algérie. Quand je suis revenu en France, mes petits camarades avec qui j'avais gardé des relations m'ont dit, écoute, c'était le début de la scission entre la Russie et la Chine, de la scission violente, hein, sur le fleuve Amour, le mal nommé, ils se tiraient dessus volontiers. Donc il fallait choisir et on a choisi le camp chinois.
Ronny Broman, l'ex-président de Médecins Sans Frontières, n'a pas non plus oublié ces années Petit Livre Rouge. Au départ, il y a les comités Vietnam de base, la révolution culturelle en Chine, puis 68 qui se termine. Ronny Broman a alors 18 ans. Il s'engage dans la gauche prolétarienne, chez ceux qu'on appelle alors les Mao Spontex, comme l'éponge. Ronny Broman.
On était Mao du fait que on prônait la version chinoise du communisme plutôt que la version soviétique. Et Spontex, ça voulait dire que de la révolution culturelle, des gardes rouges, on retenait la dimension anti-autoritaire, la dimension spontanéiste. On s'appuie sur des mouvements de masse, on conteste les états-majors.
Feu sur l'état-major.
Voilà, exactement. Le grand mot d'ordre qui nous plaisait beaucoup, c'était feu sur les états-majors. Ben, c'était très, très mobilisateur, parce que pour secouer cet ordre qui paraissait extrêmement installé, ben, il fallait tirer, même métaphoriquement. Donc, Spontex, ça voulait dire ça, beaucoup plus le mouvement de la rue que les cadres idéologiques assez dogmatiques fournis par la révolution culturelle, ou en tout cas par le communisme chinois. Et puis ça voulait dire en pratique aussi que toute une frange des mouvements libertaires s'intégrait à la gauche prolétarienne. Et moi, le premier groupe politique auquel j'ai adhéré, ça a été la Fédération anarchiste.
Ah, moi, je suis tombé amoureux d'un concept. Roland Castro, architecte, urbaniste, essayiste, directeur de journal.
Et ancien maoïste.
Ancien maoïste.
Comment ? Alors on va revenir sur cet engagement de jeunesse. Allumez-vous votre cigarette, hein. On a le droit à la radio, là on la voit pas, donc vous pouvez y aller. Pourquoi cet engagement ? Vous vous souvenez, vous, de la révolution culturelle ? Comment ça a commencé ? On était quand même très loin de la Chine, ici.
Avant la révolution culturelle, j'étais plutôt sur l'idée de Jean Kélévitch. Étudier la révolution française. Je savais que la révolution dévore ses enfants. Et donc, la révolution, j'étais pour. Et immédiatement après, j'étais contre. En gros. Mais le fait qu'elle soit culturelle m'a paru... j'ai mis dedans les lumières. J'ai mis dedans la lutte contre la bureaucratie. J'ai mis dedans l'horizontalité du peuple. J'ai mis dedans... une capacité de s'avancer vers une société sans, avec moins d'État. Voilà. J'ai adoré le concept.
À l'époque, est-ce qu'il y avait, vous le dites, hein, le stalinisme, on n'en voulait plus, il y avait vraiment le camp des URSS et pro-Chine ?
Oui, mais c'est de l'orientalisme. Mmh. Ça a toujours marché, le mythe de l'Orient. L'Orient est rouge. C'est Pierre Le Tille. Orient rouge, le soleil se lève sur la terre de Chine. Les Mao Tse-tung.
Alors on passe toujours dans cette maison par des endroits qui n'ont pas été vraiment rénovés.
Hein. Nous sommes toujours chez Jean-Paul Ribe.
Alors là on va passer par une espèce de salle. Attends, il faut que je ferme la porte parce que si par hasard la chienne descend après une cavale dans tous les sens.
Comment elle s'appelle déjà, Ida ?
Ina.
Ina, pardon, la déesse.
Inanna, la déesse de l'amour. On arrive.
Vous vous en souvenez des premiers gardes rouges ?
Très bien, très très bien.
Qu'est-ce que ça vous évoque comme souvenir ?
Ah bah moi ça m'évoque comme souvenir l'enthousiasme pour leur mot d'ordre, feu sur le quartier général. Je veux dire, quand un mouvement se crée en disant feu sur le quartier général et que t'as moins de 30 ans, tu trouves ça génial, quoi. Tous les vieux cons, tous les bureaucrates, tout ça va dégager et une nouvelle... Bon, en réalité, c'était pure lutte de pouvoir du vieux totem de bois Mao enfermé et qui redoutait par-dessus tout de perdre le pouvoir, voire même d'être démaoïsé de son vivant, hein, par Liu Shaoqi. Mais tout ça, on l'a appris après.
On ne savait pas à l'époque.
Mais on ne savait. Alors, la propagande chinoise était géniale parce qu'elle allait à la rencontre de cette volonté qui s'est manifestée en 68, à la fois de sortir de l'enfermement dans une classe sociale et de libérer quelque chose, de libérer des énergies. La grande révolution culturelle prolétarienne, nous on l'a vécu en 10 ans, toute cette équipe de jeunes intellos, des fleurons de la bourgeoisie française et tout, c'était, on va faire quelque chose, on va aller travailler en usine. Et moi, je suis parti.
Il est parti à l'usine Jean-Paul Ribes, et en l'occurrence dans une ficellerie de la banlieue lilloise avec des ballots de cisale arrivant par bateau du Mozambique. Parfois, ces installations sont beaucoup moins romantiques, les décisions sont prises par le comité central et les gardes rouges, ou plutôt les militants de base, doivent obéir. Ronny Broman.
Il n'y avait pas de gardes rouges, il y avait ce qu'on appelait un mouvement de la jeunesse, qui était un peu l'équivalent. On recrutait dans les lycées ou parmi des jeunes de banlieue, un peu désocialisés, ayant des ennuis avec la police. Les éléments les plus radicaux qui formaient un peu nos troupes de choc, celles auxquelles moi j'étais également, enfin troupes de choc, hein, toutes choses égales par ailleurs, n'exagérons pas la violence qu'on utilisait. Mais bon, c'était des coups de poing, parfois des coups de bâton, mais ça n'allait quand même pas si loin que ça. Cela étant, la forme organisationnelle de base, c'était en effet la cellule, qui était composée de quelques personnes, ou une dizaine, ou une quinzaine de personnes, et qui fonctionnait par zone. C'est-à-dire, il y avait des zones géographiques. Moi, j'étais au départ dans la zone dite sud-est, Choisy, Ivry, disons la banlieue sud-est. Et on allait dans les usines. Certains d'entre nous étaient établis, sur ordre d'ailleurs. Moi, je n'ai pas été établi parce que j'en ai pas reçu l'ordre, mais sinon, j'y serais allé.
Le Vietnam brûlait, moi, je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi, je vole Mao, Mao. Le napalm coulait. Moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent et moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient et moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao.
C'est le petit lèvre rouge qui fait que tout enfin bouge.
De 1966 à 1973, la radicalisation d'une partie de la jeunesse étudiante en France apporte de nouveaux partisans au maoïsme. La voie chinoise comme échappatoire au stalinisme, c'est en Chine que se forme l'homme nouveau, croit-on à l'époque, que l'intellectuel rejoint les rizières ou s'établit en usine. Roland Castro, architecte et fondateur de Vive la Révolution, un groupe maoïste libertaire qui se distingue par ses slogans festifs.
Les fous sont rois et moi je bois Mao, Mao.
Il y avait l'aspect de ne pas distinguer le travail manuel, le travail intellectuel. Il y avait des choses qui, encore aujourd'hui, me paraissent d'ailleurs, s'y décider librement, sans le moindre problème. Je ne vois pas pourquoi un ajusteur n'est pas philosophe, et je ne vois pas pourquoi un chauffeur de Uber n'est pas un grand peintre. Il y a un truc que je continue à penser. Quand ma secrétaire a fait une connerie, je dis pas c'est ma secrétaire, j'applique la ligne de Mao, quand les masses font une erreur, c'est les cadres qui doivent faire leur autocritique. Et ce que j'ai aimé dans Mao, c'est la morale, je pense, et notamment les trois règles de discipline et les 8 recommandations de l'armée rouge. Alors depuis, j'ai lu des tas de biographies, des machins, c'est beaucoup moins idyllique qu'on en raconte, voilà. J'ai pas pratiqué le doute méthodique, on peut pas dire, j'ai même foncé dedans. C'est-à-dire, en plus, j'ai eu, je pense, j'avais quitté le Parti communiste à cause du stalinisme. J'ai l'impression de pouvoir retourner dans mon douar d'origine, dans ma religion.
Trompe tibétaine. Sauf que tu t'épuises. Non, non, n'essaye pas.
Ça fait de la trompette, toi?
Je range mes outils, puis on arrive dans ces grandes pièces voûtées qu'on fréquente pas beaucoup en hiver, sauf quand on fait des fêtes avec des feux et tout ça. On salue au passage Tenzin Gyatso. Et là, quelque part dans la bibliothèque, il y a un exemplaire du petit livre rouge que je n'ai pas brûlé, jeté aux orties.
Assez bien conservé, hein.
Oui, c'était de la bonne qualité. Hein. On recevait des caisses de petits livres rouges que l'ambassade de Chine était trop contente de nous inonder. Voilà, et là, Wen Jie Mao.
Vous brandissez le petit livre rouge comme à l'époque.
Voilà, comme à l'époque. Wen Jie Mao Chuzi. Vive le président Mao, qu'il vive 100 ans.
Et même Milan comme le scandale et gardes rouges à l'époque. Jean-Paul Ribes a rejoint depuis sa première cause, la lutte contre le colonialisme. C'est le livre de Simon Less, Les habits neufs du président Mao, qui a tout changé.
Au début, je disais, mais attends, ce mec, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et puis, on a appris que le grand bond en avant avait causé des millions de morts. des famines. Et on a appris, cerise sur le gâteau, qu'à l'époque même où nous nous battions pour la libération du peuple que la France colonisait, la Chine colonisait le Tibet. Donc, il n'y avait pas le choix, c'était clair, il fallait donc s'engager aux côtés des Tibétains. C'est un retournement logique.
Un retournement logique, Ronnie Broman finira aussi par quitter la gauche prolétarienne, trop violente.
C'était très physique. Quand on a fait par exemple la campagne du métro, ce qu'on appelait la campagne du métro, c'est-à-dire rendre le métro gratuit, on se bagarrait pratiquement tous les jours. C'était extrêmement éprouvant. Et pour des gens qui sont... Bon, moi, je savais un peu me débrouiller dans la violence parce que j'avais un peu de technique et j'avais un gabarit qui allait avec. Mais enfin, psychologiquement, c'est pas mon truc. Donc je me faisais violence à moi-même pour devenir violent. Et c'était psychologiquement épuisant. D'ailleurs, moi, à un moment, j'ai craqué. Je me suis... Totalement retiré, j'ai fait une plongée de plusieurs mois, je n'en pouvais littéralement plus, et toute contestation était considérée comme un déviationnisme. Donc on voyait le sectarisme de type garde rouge monter.
C'est peut-être cela, le sectarisme, la verticalité des organisations qui fera retomber l'engouement des maoïstes français. Un engouement qui aura duré plus que dans tout autre pays européen. La révolution culturelle et les pro-chinois en France. Grand reportage de Souhaï Kédir et Stéphane Lagarde.
Grand reportage à retrouver, à réécouter sur RFI.fr.
To flee. No RFI.